Donc si je dépasse, ce n'est pas ma faute. On a peut-être oublié de donner les nouvelles de l'après-midi de dimanche dernier, qui s'est vraiment super bien passé. Il y avait à peu près une quinzaine d'amis musulmans et une quinzaine de la communauté qui étaient présents. Donc un petit peu plus, je ne sais pas. Ah, ben, tu vois, je suis dans les chiffres, je ne suis jamais bon. Combien tu dirais ? Bon, voilà. Il y avait une bonne vingtaine de chaque. Et vraiment, c'était un temps béni, un temps vraiment convivial, comme on a voulu qu'il soit. Et des deux côtés, je pense que tout le monde a été ravi de cette rencontre. Et la communauté musulmane est pressée d'en refaire une. Et cette fois-ci, ce sera chez eux. Donc, c'était vraiment excellent. Alors, c'est rigolo que samedi dernier, il y a eu la journée spéciale sur les femmes, parce que ce matin, on peut afficher le PowerPoint. On va parler des hommes. De temps en temps, c'est bien qu'il y ait des choses qui soient un peu séparées, même si, forcément, dans l'enseignement de la Bible, beaucoup de choses se recoupent des deux côtés. Le but du message de ce matin, c'est de nous faire réfléchir l'homme et la femme sur le rôle d'un homme. Je me souviens que Joël avait fait un message sur ça, mais ça remonte maintenant, donc c'est bien de rappeler ces choses-là, sur l'aspect masculin et comment il semble que l'homme doit agir selon la pensée de la Bible. Parfois, je vais pousser certaines choses au bout du raisonnement, c'est juste pour nous faire réagir. Nous sommes dans un temps où la société se questionne beaucoup sur l'homme, la femme, sur ce qu'ils doivent être, sur ce qu'ils doivent faire. Et ce matin, je veux qu'on passe un peu de temps sur la masculinité, sur le rôle plus de la masculinité, et notamment au travers de Genèse 2, 3 et du livre des Proverbes. Alors, je défends le fait, pourquoi c'est un sujet aussi pour les femmes ? Eh bien, parce que l'homme et la femme vivent ensemble. Et je pense que c'est bien de connaître l'autre. Parce que aussi en entendant comment doit se comporter un homme, eh bien la femme va pouvoir l'affermir dans qui il est et dans ce qu'il doit faire. Parce que aussi peut-être la femme a pu être blessée par le comportement masculin. Et peut-être que ça va aider à comprendre certaines choses. Enfin, parce que je crois et je suis intimement convaincu que l'homme a crucialement besoin de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu nous dira. Enfin, je termine mon introduction en disant que si les exemples que je vais prendre vont se référer le plus souvent à l'homme marié, c'est ce que je suis, la plupart des choses est transposable aussi pour les célibataires, dans une certaine mesure, au sein de la communauté chrétienne, car lui aussi doit prendre soin des femmes et des enfants qui sont dans la communauté. La Bible a été écrite dans un temps où la place de l'homme mâle, dans la société était importante. Dieu donne à l'homme une responsabilité, je dirais, première au sein de sa création. Bien entendu, il serait faux de penser, c'est bien de le redire ce matin, que la femme a moins d'importance en termes de valeur. Hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. C'est lui qui leur donne leur valeur. Juste pour le PowerPoint, je te laisserai gérer en fonction de ce que je dis, parce que si je passe du temps à tourner, là pour l'instant il n'y a rien, mais je vais perdre trop de temps. Hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, on a un récit dans la Bible, en Genèse 34, où il y a une femme qui s'appelle Dina. Et il se passe quelque chose de terrible, elle est violée. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire. Et vous savez quelle est la réponse ? Si vous en rappelez, non ? La réponse, c'est que tous les hommes de la ville où ça s'est passé ont été décimés, ont été tué. Une guerre a été déclarée et les hommes d'un village décimés pour le viol d'une seule femme. Je vous laisse juste comparer à notre société d'aujourd'hui et avec ces derniers scandales, hashtag dénonce ton porc, etc. Quelle est la place de la femme aujourd'hui ? Je crois que la Bible a une haute opinion de la femme. Elle a une grande valeur. Néanmoins, pour être égaux en valeur, nous n'avons pas besoin d'être des clones. Vous êtes d'accord avec ça ? Heureusement que je ne suis pas le clone de Pierre et que Pierre n'est pas mon clone. Au sein même de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents, mais égaux. Ils ont des rôles différents, des autorités différentes. L'Esprit est soumis au Fils, le Fils est soumis au Père. Mais les trois sont le Dieu unique, de même valeur. Voilà, je voulais juste faire un bref rappel par rapport à ça, parce qu'on va se focaliser maintenant sur l'aspect masculin, sur l'aspect de l'homme. Et ce n'est pas parce que je vais focaliser et dire des choses sur l'homme qu'il faut interpréter le contraire. Par exemple, si je dis que l'homme est fort, a de la force, ça ne veut pas dire que la femme est faible. D'accord ? Elle est aussi forte, d'une manière peut-être différente à certains moments. Alors, on va attendre encore pour le PowerPoint. On va parler de trois domaines. Il y a plein de domaines, en fait, mais j'en ai choisi trois sur lesquels l'homme doit jouer un rôle. On va parler du cultivateur, on va parler du guerrier qui se bat, et on va parler de la notion de savoir, d'être. L'homme est un être de savoir, qui doit savoir. Et puis après, on verra trois manières dont l'homme pêche par rapport à ces domaines-là. Le cultivateur, on y va. L'homme est créé pour cultiver. On trouve ce texte dans la Genèse. Il plante, il veut voir évoluer les choses. En Genèse 2, on voit que Dieu crée un jardin pour que l'homme le cultive. Et Dieu dit, cultive et remplis la terre avec ta femme. Dès le départ, Dieu avait prévu une tâche immense à accomplir. Et c'est à l'homme accompagné de la femme qu'il la confie cette tâche. Dès le début, cela voulait dire beaucoup de travail, beaucoup d'enfants, beaucoup de patience, parce que ça va prendre beaucoup de temps. La terre entière devait ressembler à ce petit bout de jardin qui était Éden. Les hommes sont appelés à être des cultivateurs, car ils aiment créer des choses. Et quand les choses sont créées, ils aiment les faire évoluer. Par exemple, les hommes aiment cultiver leur corps. Tu peux mettre les photos. Ah, c'est celle d'après. Ça ne fonctionne pas ? Si. Si, si, mesdames, je vous assure, tous les hommes ici ont les tablettes de chocolat. Parfois bien dissimulé. D'autres vont le faire avec leur voiture. Donner à un gars une voiture, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder la vitesse, il va améliorer le tuning, il va écouter le son et puis il va changer quelque chose. Mon voisin change de voiture 3 fois par an, toujours à la recherche de quelque chose de mieux, de plus rapide, de plus performant. D'autres le font avec leur maison. Ils sont toujours en train de construire quelque chose, de bricoler quelque chose. Et ça les rend heureux. D'autres le font avec les ordis, les technologies. Donner à, je sais pas, à Pierre ou à Mathieu un ordi, et ils vont aller changer la puce, chercher le dernier logiciel. Qu'est-ce qui peut améliorer les performances de l'ordi ? Si tu donnes à un homme une entreprise, il veut la faire progresser. Il veut qu'elle s'améliore. Il veut vendre plus, il veut toucher plus de monde, il veut gagner de nouveaux marchés, etc. Les hommes veulent faire pousser, faire croître. Et par-dessus tout ça, je dirais que les hommes sont appelés à cultiver leur famille. Ils sont appelés à cultiver leurs épouses, à les aimer, à les aider, à construire leur vie. Le psaume 128 nous dit « pour qu'elles deviennent une vigne féconde dans le foyer. Et ils sont aussi appelés à cultiver leurs enfants en leur donnant l'instruction, la sagesse, le courage et les faire grandir pour évoluer et devenir des hommes et des femmes à leur tour. Alors si un homme n'a rien à cultiver, je crois qu'il s'ennuie et qu'il ne se sent pas bien. Le problème à ce niveau, c'est que si l'homme ne connaît pas Dieu, il va cultiver les mauvaises choses. Il cultive le péché et il développe la rébellion et la mort. L'homme peut décider soit de cultiver et de construire la tour de Babel, soit de construire l'arche de Noé. Ce que je veux dire par là, c'est que soit il cultive pour Dieu et avec Dieu, soit il cultive contre Dieu. Heureusement, Dieu est intervenu. Ouf. Et vous savez ce qu'il a fait pour freiner l'homme dans ses mauvaises cultures, j'allais dire, dans ce qu'il cultive de mauvais? Pas de blague comme ça, on les fera à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait quand l'homme a péché? Il a maudit le sol. Dieu a maudit la terre que l'homme aurait à travailler. Et j'ai dit « heureusement », et on va voir pourquoi. Genèse 3, 17. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Chaque fois que tu vas les couper, elles vont repousser. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » C'est génial, non? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui est sous la domination de l'homme va être maintenant rebelle contre lui. Tout va se bagarrer contre lui. La terre va produire des ronces et des épines. À chaque fois que l'homme cultive, à chaque fois qu'il travaille à quelque chose, sa maison, son entreprise, ses enfants, tout s'acharne contre lui. Certains peuvent peut-être penser, oh, peut-être la jeunesse, quand j'aurai un travail, ou quand j'aurai une voiture, quand j'aurai une maison, après, ah, tout ira bien. Mais la réalité, c'est que nous n'avons jamais assez d'argent, jamais assez de temps, et que nous nous sentons souvent épuisés. Pourquoi? Parce que le sol sur lequel je travaille a été maudit. Et vous savez quoi? Je pense que c'est une grâce. Je pense que réellement c'est une grâce. Pourquoi? Parce que ça m'enseigne quelque chose sur Dieu. La terre fait à l'homme ce que l'homme fait à Dieu. Amen. La terre fait à l'homme ce que l'homme fait à Dieu. Pensons-y. On peut s'énerver, crier à Dieu en lui disant « Mais je travaille ! Pourquoi tout s'acharne contre moi ?» Et Dieu pourrait nous répondre « Parce que tu fais la même chose avec moi. » C'est pourquoi l'homme, je crois, comprend mieux l'évangile alors qu'il travaille, qu'il cultive. Plus l'homme prend des responsabilités, il devient mari, il devient père, il est responsable dans l'église ou dans une entreprise, plus ça le plonge au cœur même de l'évangile. La terre fait à l'homme ce que l'homme fait à Dieu. Heureusement que Dieu cultive aussi. Ouf. Il cultive l'homme et veut l'amener d'une place de rébellion à une place d'humilité. Qu'est-ce qu'on retire de cela? Eh bien que tout ce que tu vas entreprendre va très souvent être difficile et va demander beaucoup de travail. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Fonder une famille, c'est beaucoup de travail. Qui dit le contraire? Réussir professionnellement, c'est beaucoup de travail. Construire une maison, c'est beaucoup de travail. Les hommes sont donc appelés à travailler dur et longtemps. prendre le raccourci de la fainéantise et de l'oisiveté ne nous mènera nulle part. J'ai une question. Est-ce que tu veux être du vinaigre ou de la fumée pour Dieu ? Tu peux mettre le verset. C'est le paresseux, lui. Proverbe 10, 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Est-ce que Dieu vous envoie ? Oui. Qui sommes-nous ? L'homme est appelé à travailler dur et cultiver le jardin de Dieu. C'était le premier point. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que c'est important. Nous sommes appelés à travailler et à travailler dur. Deuxième point, c'est l'homme est un guerrier qui se bat. C'est quelqu'un qui se bat. Et j'ai envie de le redire. En Genèse, Satan vient dans le jardin. Satan, quand on le traduit, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est celui qui est contre. Adam était censé se battre, lutter contre l'ennemi, mais il ne l'a pas fait. Il s'est assis dans le silence et a laissé Satan attaquer la femme et déshonorer le nom de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que ? Les hommes sont faits pour se battre. On le voit avec toutes les guerres dans l'Ancien Testament et dans le monde. Ils ont besoin d'être en compétition plus qu'en relation. C'est vrai les jeunes ? Ils disent oui là-bas. Ils ont besoin de se battre pour quelque chose car ils sont faits pour remporter des victoires. C'est en nous. Dès le jeune âge, les garçons sont attirés par le sport, la compétition, se battre ou par la guerre. On le voit avec les jeux vidéo. D'accord ? La plupart des garçons, des jeunes, voilà. Ils ne vont pas jouer à je ne sais pas quel jeu vidéo. Si vous rentrez dans la chambre de mon fils pour accéder à son lit, vous allez devoir d'abord esquiver toutes les épées, les boucliers, il a même un fusil. Il a plein de choses qui sont là parce qu'il aime jouer à se battre. Donnez à un garçon des poupées et vous verrez ce qu'il en fait. Oui, il va jouer à la poupée. Mais il ne va pas passer 2 heures à la coiffer et à l'habiller. Elles vont vite se transformer en ninja et elles vont se battre les unes contre les autres. Un homme est fait pour se battre. Pourquoi ? Afin de défendre la justice, la vérité. Il est fait pour combattre le mal et pour protéger le faible. Dieu a un ennemi et l'homme aussi. Nous avons peut-être tendance en tant que chrétiens à oublier que nous sommes en guerre. La Bible nous dit, tu peux mettre le verset, « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants qui parcourent la terre. » La guerre ne s'est pas arrêtée avec le Nouveau Testament. Est-ce qu'on le réalise, ça ? Le Nouveau Testament nous aide à comprendre quelle est la vraie guerre. Elle est spirituelle. Mais elle ne nous dit pas qu'elle n'existe plus. En tant qu'homme, nous sommes donc appelés à mener le combat et non pas, excusez-moi, à regarder les femmes et les enfants se battre. Si l'homme ne mène pas un combat, je crois que aussi, comme quand il ne travaille pas, il est perdu. Il tourne en rond. Et alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se battre contre les mauvaises choses. Il va probablement maltraiter sa femme, ses enfants ou la communauté dans laquelle il est. S'il ne combat pas des ennemis, il va combattre ceux qui sont autour de lui, parce qu'il aime combattre. Et alors ces hommes deviennent dangereux. On en parlera un peu plus longuement après. Ils deviennent dangereux, vraiment. Nous avons un ennemi et nous devons diriger nos forces vers le véritable ennemi. Et dans l'Église, nous avons besoin d'hommes qui protègent le faible et se battent contre l'injustice. Alors je voudrais nous réinviter ce matin, messieurs, à laisser de côté notre robe de chambre, nos charentaises, et nous lever. Nous avons une guerre à mener. et nous avons une guerre à gagner et un royaume à établir. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, je suis tout seul d'accord avec ça. Le troisième point que je voulais développer ce matin, c'est l'homme est un être de savoir, qui doit chercher à savoir. L'homme est appelé à être sage et instruit, puis à transmettre son savoir. Un homme qui est sage et qui agit en accord avec la sagesse va enseigner énormément à ses enfants, à sa famille, à tout son entourage. On peut prendre 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voyez les images qu'utilise Paul. Le soldat, l'athlète, celui qui veut se battre. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. En Genèse, qu'est-ce qui se passe ? Dieu donne les instructions à l'homme. Je n'avais jamais forcément porté attention, mais c'est à l'homme qu'il donne les instructions. Vous pourrez manger des fruits, mais celui-là, non. Puis l'homme était censé les retransmettre à la femme. Apparemment, Adam ne s'est pas beaucoup appliqué à cela, parce que la femme, elle a été séduite et elle a succombé à la tentation. L'homme est fait pour recevoir le savoir et le transmettre. Nous devons lire, chercher, creuser encore tout au long de notre vie. L'homme a besoin de sagesse pour enseigner. Le garçon de 3 ans regarde celui de 6 ans et il dit « Je veux être pareil ». Celui de 6 regarde celui de 12 et il dit « Je veux être pareil ». Celui de 12 vous regarde, vous, les jeunes là-bas, et ils disent « Je veux être pareil ». Qu'on le veuille ou pas, on enseigne, soit par nos paroles, soit par nos actes. Bien entendu, cela ne disqualifie pas la femme. Je ne vous oublie pas, mesdames, mais je focus sur les hommes ce matin. Ça ne disqualifie pas la femme dans l'enseignement. Si l'homme travaille, et c'est dans la plupart des foyers le cas, là, c'est la femme qui enseigne à la maison. Mais l'homme est le responsable. C'est ça que je veux dire ce matin. L'homme est le responsable face à Dieu de ce qui est enseigné dans son foyer. Il est forcé d'échanger avec sa femme sur tous les sujets de la vie et il doit se positionner clairement. La doctrine biblique, les sujets d'éthique, c'est lui qui doit gérer l'homosexualité ou le transgenre, s'il peut y en avoir dans les familles autour. C'est lui qui doit répondre sur l'avortement ou la contraception, etc., etc. Bien sûr qu'on discute avec nos épouses et qu'elles sont d'une grande aide, mais ça n'est pas « vas-y et moi je me cache ». Si ton enfant se drogue ou fait n'importe quoi avec la sexualité, la réponse, ça n'est pas de dire « bon, va voir ta mère, sinon je vais te défoncer ». On peut voir ça. On peut voir ça. La réponse n'est pas de rejeter le fardeau sur la mère, car moi, je n'ai pas d'autre réponse que l'impulsivité. En tant qu'homme, je dois donner une réponse. Et je dois me battre pour les valeurs de Dieu. Dans l'Église et dans notre assemblée, nous encourageons les femmes à prêcher. Nous les encourageons à exercer tous les ministères de l'Église. Pourquoi ? Parce que les anciens, qui sont des hommes, sont responsables face à Dieu de ce qui est enseigné ou de ce qui se vit. Voilà la raison. Les femmes sont libres d'exercer tous les ministères dans l'Église. Parce qu'il y a des anciens qui sont responsable. Nous ne rejetons pas le fardeau sur la femme parce qu'on a lu Jacques. Vous savez, dans Jacques 3, il est dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alors on va faire enseigner les femmes. C'est une petite blague. Ce que j'essaie de dire là, c'est que l'homme n'occupe pas tout l'espace, bien sûr, du savoir et de l'enseignement. Il a besoin de la femme comme la femme a besoin de l'homme. Mais, et il y a un grand mais, il ne se cache pas quand il s'agit de prendre ses responsabilités. Et il n'accuse pas la femme pour les choses où lui aurait dû répondre. C'est ce qu'Adam a fait, il me semble. Je vous relisez quand vous rentrez chez vous ce passage. Ah, il me semble que Adam a dit à Dieu, je ne savais pas moi. C'est elle qui a pris la décision de manger le fruit. Je ne savais pas. Voilà notre programme, messieurs. Travaillons, cultivons, battons-nous. Battons-nous, prenons les armes, défendons la justice. Et cultivons-nous dans le sens cérébral, sachons donner des réponses. Ça, c'était juste la frappe sur la joue droite. Et comme on aime bien être biblique, on tend la gauche. Vous êtes d'accord? Ça va, messieurs? Je ne vous ai pas perdu? Besoin d'un café? Non? Ça va? Bien réveillé? Ça va? Je voudrais aborder maintenant trois manières dont l'homme pêche par rapport à ces choses, à ces domaines-là. La première, c'est en étant abusif. La deuxième, ce sera en évitant ses responsabilités. Et la troisième, on abordera l'abandon, l'homme qui abandonne. Alors ici, l'homme qui est abusif, je vais pousser le trait un peu plus loin que forcément dans la communauté, mais dans le monde, pour qu'on comprenne bien jusqu'où peut aller un homme quand il devient abusif. Donc certains hommes abusent de leur force. Au lieu de l'utiliser pour faire quelque chose de bien, ils l'utilisent pour faire quelque chose de mal avec. C'est ça, être abusif. J'ai de la force pour faire quelque chose de bien et je fais quelque chose de mal avec. Je crois qu'on ne peut pas enlever cette force de l'homme. Peut-être chimiquement, Joël nous le dirait, mais si on ne le traite pas, on ne peut pas enlever cette force qui est en lui. On peut juste l'orienter. Certains sont comme Adam. Ils abusent les autres. Adam pêche, et sur qui il fait retomber la faute? Sur Ève. Dieu vient et dit « Quelqu'un a péché ?» Et Adam dit « Punis-la elle. » Si tu es en colère, déverse-la sur elle. Ça, c'est un homme abusif. Il n'est pas fort pour sa femme, il est fort contre elle. Ces hommes sont dangereux. Ils peuvent aller même jusqu'à battre leurs femmes et leurs enfants. Aujourd'hui en France, aujourd'hui, donc les statistiques c'est d'il y a 2 ans, puisque à chaque fois c'est 2 ans en arrière, une femme décède tous les 3 jours du fait de la violence de son mari. Aujourd'hui en France, tous les 3 jours. 219 000 femmes par an sont victimes de violences physiques ou sexuelles. Ces hommes ont soif de pouvoir et de domination. Et Proverbes, le livre des Proverbes en parle beaucoup de ces hommes-là. On va lire certains proverbes. Vas-y, Proverbe 1. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, nous dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, et là Dieu, j'ai envie de dire, il crie là, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Dieu nous dit clairement, reste loin d'eux. Ces hommes existent dans la société et je crois que la réponse, ce n'est pas d'être doux avec eux. Aimez-le. Je ne pense pas que ces hommes-là comprennent ça. J'ai mis deux réponses. Une réponse, c'est d'être au moins aussi fort qu'eux. C'est pour ça que nous avons des tribunaux. C'est pour ça que nous avons des prisons et c'est pour ça que nous avons des peines en France pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. La réponse, c'est la force. On peut afficher l'autre proverbe, proverbe 20. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. Waouh, il va fort. Hein. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. C'est ça le remède pour le méchant. Et l'autre façon de répondre à ces hommes qui abusent à l'extrême de leur force, c'est de, je crois que c'est même la seule solution, c'est de les orienter vers Dieu en leur montrant qu'ils peuvent construire quelque chose plutôt que d'utiliser leur force pour détruire. Alors, j'ai pris ce proverbe parce qu'on voit que Dieu, l'Éternel, il est un ami pour les hommes droits. Il faut leur montrer la bonne direction. Si tu es droit, tu seras l'ami de Dieu. Dieu bénit la demeure des justes. Si tu établis la justice, si tu te bats pour la justice, tu seras béni de Dieu. Il fait grâce aux humbles. Dieu donne sa grâce à celui qui est humble. Les sages hériteront la gloire. Le danger avec ces hommes est que, malheureusement, ils ne sont pas seuls et, en général, ils prennent d'autres hommes avec eux. Le proverbe 16, « L'homme violent séduit son prochain. » Waouh ! Et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Il y a plein, en fait, dans le livre des Proverbes, je vous encourage à le relire, il y a plein de versets qui parlent de ces hommes-là. Et les mots sont très forts pour les décrire. Les mots pour les décrire sont cruels, violents, impulsifs. Ces hommes brisent les cœurs, ils volent, ils créent la discorde, ils abusent le faible, ils dominent les autres, ils ont soif de sang, ils tuent. 1 Corinthiens 11 nous parle que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Ils en sont très loin, ceux-là, ceux qui abusent de leur force. Dans le monde loin de Dieu, la force de l'homme peut faire le mal, détruire et apporter la mort. Ça, c'est une réalité. D'accord ? Je ne dis pas ça pour nous déprimer ce matin, c'est juste une réalité. C'est pourquoi je crois que nous avons vraiment besoin d'hommes forts dans l'Église pour conduire avec force la jeunesse et tout homme vers Dieu. Vous êtes avec moi, les mecs ? Nous avons besoin d'hommes forts dans l'Église. Je parle pour conduire la jeunesse. Je parle des jeunes car le jeune homme, en général, est plus impulsif et peut succomber au fait d'abuser de sa force. La plupart des crimes commis sont commis par des jeunes hommes. La plupart des gens en prison, ce sont des jeunes hommes. La plupart des attentats que nous avons eus en France, ont été commis par des jeunes hommes. Donc même si le trait paraît fort, ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il n'en demeure pas moins que l'homme a cette tendance à abuser de sa force au lieu de s'en servir pour protéger le faible et défendre la justice. Et ça, la Bible nous dit, ça commence dès l'enfance. Dès l'enfance. C'est pas quand un homme aura 50 ans qu'on va se dire « Ah, peut-être qu'il aurait fallu faire quelque chose. » Proverbe nous met en garde contre l'enfant rebelle. Il est rebelle, lui. Hein. Celui qui ruine son père et met en fuite sa mère est un fils qui fait honte. Waouh. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Toujours envie d'être rebelle, les jeunes ? Nous avons besoin d'hommes forts et sages dans l'Église qui éduquent les cœurs et enseignent aux enfants à être soumis aux voies du Seigneur. À être soumis. On n'emploie pas assez ce mot-là dans notre Église. Aux voies du Seigneur. Le cœur se forme et la volonté aussi. Je finirai ce point en regardant à Jésus. À l'inverse d'Adam, Jésus a dit « Dieu, tu es en colère, déverse-la sur moi. » Adam était coupable, Jésus ne l'était pas. Mais Jésus a dit « Frappe-moi. » Quelqu'un doit être puni, eh bien ce sera moi. Voilà l'exemple. Voilà le nouvel Adam dont nous parle Paul dans l'Épître aux Romains. Nous avons besoin d'hommes forts pour défendre la communauté et nous avons besoin d'hommes forts dans l'Église, prêts à bondir dehors pour proclamer la parole de Christ. Messieurs, c'est à vous que je m'adresse en premier parce que les dames, en général, elles y sont dehors. Et messieurs, on vous court après. Donc je veux m'adresser en premier à vous. Samedi prochain, j'espère que vous serez dehors avec nous, prêts à bondir pour proclamer la parole de Christ. Prêts à endurer l'opposition, l'injustice, prêts à de nombreux sacrifices pour le salut de ceux qui se perdent et qui marchent droit en enfer. L'homme abusif. Le deuxième point sera moins long, je vous rassure. C'est l'homme qui évite ses responsabilités. Et je crois qu'éviter les responsabilités, ce n'est pas forcément mieux que d'abuser de la force. Certes, ça fait moins de bruit et ça dérange moins. Et dans les églises en général, il y a ce genre de personnes. Et elles ne font pas de bruit. Elles ne dérangent pas. Elles ne créent pas de désordre. Le défaut avec ça, c'est que Dieu ne dit pas seulement de ne pas causer du tort, il demande de faire quelque chose de bon avec nos vies. Quand Satan est venu attaquer Ève, qu'a fait Adam ? Réponse : rien. Il n'est pas intervenu, il est juste resté dans le silence. C'est un homme qui a évité ses responsabilités. Et je crois que dans notre société moderne, une partie des hommes évitent de plus en plus leurs responsabilités. Ils cherchent le confort, ils considèrent le travail comme trop difficile et ils ne construisent plus grand-chose. Ils ne construisent pas de famille, ils n'ont pas de projet immobilier, ils ne s'investissent dans aucun ministère de l'Église. Ils ne sont responsables de rien. Ils ne font rien, donc rien de mal. Et pense que c'est OK. Mais en général, ce genre d'homme, qu'est-ce qu'il recherche ? Il recherche des raccourcis, je crois. Il recherche la facilité. Mais avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Il y a juste une longue route, et en plus, elle est étroite. C'est pour cela que Dieu a mis dans l'homme la force, la persévérance, la patience et le courage pour marcher et marcher encore. Proverbe 3. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Quand tu peux faire quelque chose, fais-le. La paresse ou l'oisiveté, ce n'est pas ce qui va t'aider à servir ton Dieu. Proverbe 12. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. D'après la Bible, nous sommes censés travailler 6 jours, messieurs, et se reposer 1. Parfois, on voit l'inverse. Proverbe 14. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alors, quand on voit l'inverse, en général, ces gars-là, ils sont très forts. Très forts pourquoi ? Pour se justifier. Ah, ils sont très bons. Ils ont toutes les excuses du monde et pour justifier le fait qu'ils ne fassent rien. Mais la Bible nous dit, il n'y a pas de raccourci. Elle dit, ne parle pas trop, mais travaille beaucoup. Elle dit, ne soyez pas trop nombreux à vouloir enseigner, mais la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Petite parenthèse pour les dames célibataires. Si vous voyez un homme qui cherche la facilité, qui a peur du travail, qui trouve des excuses pour rester chez papa-maman à 30 ans, qui n'a toujours pas de travail, un appart ou une voiture, en gros, qui fuit toute responsabilité, un petit conseil, évite-le. S'il a les tablettes, tu peux être séduite. Évite-le, ne te marie pas avec. S'il n'a pas été capable de prendre une responsabilité pour sa propre vie, ne pense pas qu'il va en prendre pour construire un foyer. Tu risques de te retrouver à tout porter, à bout de bras. C'était une parenthèse comique, mais pas trop, en fait, parce que ça existe de plus en plus. Une autre façon dont l'homme évite ses responsabilités, un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Pornographie, club de striptease, prostituées, etc. Qu'est-ce que veulent ces gars ? Ces gars, ils veulent manger sans travailler. Ils veulent boire sans travailler. Ils veulent du sexe sans le mariage. Ils recherchent le plaisir et ne se préoccupent que de leur ventre, en évitant le moindre effort. Raccourci, raccourci. Et il n'y en a pas dans la Bible. La Bible aussi, sur la sexualité, ne fait pas de raccourcis. Donc, les célibataires, les jeunes au fond, là-bas. Si un jour, tu veux coucher avec une femme, il va falloir t'engager dans le mariage avant et prendre la responsabilité d'une famille. Je me rappelle à mon père, à l'âge de 15 ans, quand j'ai rencontré Astrid, il m'a pris entre 4 yeux, très vite, et il m'a dit, « Fils, tu en ramènes une à la maison, et c'est fini. Tu n'en ramèneras jamais 2. C'est pour la vie. Tu as intérêt à être sérieux. » Il n'était pas chrétien, mais vous savez quoi ? Il avait raison. Il avait raison. À l'âge de 15 ans, il m'a poussé, dès mes 15 ans, oui c'est ça, il m'a poussé vers le mariage et pas vers les raccourcis. Une autre bonne chose que je crois que je dois à mon père, c'est que dès l'âge de 10 ans, même avant je pense, et jusqu'à ce que j'aille à l'université, donc que je ne sois plus chez mes parents à la maison, la grasse mat, cette fameuse grasse mat, vous savez c'était quelle heure pour nous à la maison ? C'était 7 heures du mat. L'heure normale du lever, c'était 5h30. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on crierait au scandale. Les enfants ont besoin de dormir. Vous savez quoi ? Ben, je lui suis reconnaissant de m'avoir montré la valeur du travail, la responsabilité de prendre sa journée en main et de ne pas traîner au lit le matin comme une habitude de vie. Du coup, mon premier job à 16 ans, c'était d'aller castrer les maïs dans les champs. Il fallait se lever à 5 heures Pour moi, c'était juste l'heure normale. Mon deuxième job, ça a été, à 20 ans, de travailler dans les supermarchés pour mettre en rayon. Levé, 4 heures du mat. Là, c'était un peu dur, mais pas du tout insurmontable. Allez demander ça à un jeune qui se lève à 11h30. Un homme doit prendre ses responsabilités. Un homme doit prendre ses responsabilités. Et c'est à cela que nous, les hommes, nous devons éduquer nos enfants. Le dernier point, c'est l'abandon. L'homme peut être abusif, peut pécher en abusant, peut pécher en ne prenant pas, en évitant les responsabilités. Et le dernier, c'est en abandonnant. Ceux qui disent « Oh, c'est trop dur, j'abandonne. C'est trop de travail. Chérie, je t'aime, on va construire un beau mariage. » 6 mois après, « C'est trop dur, c'est trop de travail. Et puis tu m'aides pas assez. Allez, au revoir, je te quitte. » C'est caricaturé, mais pas trop, au final. On voit ça souvent dans le monde. Ou encore celui qui va dire « Hourra, je vais être papa, je vais avoir plein d'enfants. » Et après les 3 premiers mois, quand le bébé a bien pleuré, qu'il a fallu changer les couches, lui moucher le nez, se lever la nuit, il va commencer à dire « Oh, je peux même plus faire l'amour avec ma femme quand je veux, je peux même plus regarder mon match de foot tranquillement, alors je m'en vais, j'abandonne. » Ce sont des hommes qui rentrent dans un projet et ils en sortent. Ce sont ceux qui s'engagent et ils abandonnent rapidement. Proverbe 2, la réflexion, donc la sagesse, veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pourquoi ? Pour te délivrer de la voie du mal, te délivrer de l'homme qui tient des discours pervers et de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, de ceux qui abandonnent, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent la jouissance à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Ceux qui abandonnent, en général, encouragent souvent d'autres personnes à abandonner avec eux. Je connais quelqu'un qui a fait cela, un homme marié, je vous rassure, vous ne le connaissez pas, qui fréquentait une femme mariée. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a poussée, elle, à divorcer. 25 ans après, la femme attendait toujours que l'homme divorce et qu'elle se marie avec lui. Et puis elle en a eu marre, au bout de 25 ans quand même, et elle a décidé de le quitter. Elle avait alors 55 ans, et puis elle s'est retournée sur sa vie. Qu'est-ce qui lui reste ? Qu'a-t-elle construit ? Les hommes, comme ça, entraînent d'autres avec eux. Et c'est pour ça que je crois qu'il est bien d'habituer très tôt nos garçons, nos filles aussi, mais c'est un autre sujet. Manon, je te lance la pierre pour faire un truc sur... ou à Véro peut-être, sur la femme. Il est important de responsabiliser nos garçons très tôt. Bien sûr, il ne s'agit pas de les écraser. Paul va dire, ne les découragez pas. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons les entraîner plutôt que de les installer dans un confort qui ne les rendra pas plus forts pour affronter la vie d'adulte. Parce que la vie d'adulte, en général, ne nous fait pas de cadeaux. Il y a quelques mois, Ethan commençait à râler parce que de temps en temps, bon, je suis instite, je lui donne des devoirs supplémentaires. Alors ça, il n'aime pas. Alors j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, tu sais, il vaut mieux pour toi travailler à l'école, là là là, il y a certains métiers qui sont très durs physiquement, tu sais, c'est pas facile, voilà, rien n'y faisait. J'ai dit, ok, on y va, on va dans le jardin, on est parti dans le jardin, il y avait un gros tas de bois d'un côté du jardin, je lui ai donné la brouette et j'ai dit, ce tas de bois-là, je le veux là-bas. 2 minutes après, il était en pleurs au milieu du jardin. Et je l'ai forcé à faire quelques allers-retours avec les brouettes. Pêcheur. Et vous savez quoi ? Allez lui demander maintenant. Qu'est-ce qu'il préfère ? Pousser les brouettes ou faire du travail supplémentaire à l'école ? C'est juste un exemple pour dire qu'à 10 ans, déjà, je veux lui apprendre qu'il a à prendre ses responsabilités face à l'école, face à son éducation. Et enfin, on prendra Proverbe 24, qui nous dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Il est dur ce verset, mais prenons-le dans le bon sens. La force d'un homme se juge au moment de la difficulté. Est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il va continuer d'avancer? Ou est-ce qu'il va abandonner? Rappelons-nous que ce qui est sous notre domination, ce que nous cultivons, est maudit. Par conséquent, quoi que nous fassions, on revient au début, ce sera beaucoup de travail. Ça vous donne le sourire maintenant, non? Ça sera beaucoup de travail. Yeah! C'est génial! Ça ne sera jamais une excuse pour abandonner. À cause du péché, rien n'est facile ou simple. Ce n'est pas de votre faute. La faute du péché. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. La bonne nouvelle est que nous aurons toujours besoin de recourir à Dieu. Messieurs, ça va être dur et ça va nous pousser vers lui. Rappelons-nous, plus nous cultivons, plus nous nous battons, plus nous cherchons des réponses, plus nous comprenons l'Évangile. L'homme a un besoin crucial de Dieu. À l'inverse, le péché, c'est facile. Ça ne demande aucun effort. Et normalement, ça ne va pas lutter contre toi. Mais ce n'est pas ce à quoi le Seigneur t'appelle. Je conclue. Bon, ça va, c'est toujours 11h31 à ma montre. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui cultivent et qui se battent et qui cherchent à savoir. C'est que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il y a une grâce énorme qui t'attend là. Pour ceux qui abusent, évitent ou abandonnent, vous savez ce qu'il y aura? La Bible en parle aussi. La réprimande, la discipline de la part de Dieu. Car le Père corrige celui qu'il aime. Mais pour ceux qui disent « Ma femme sera ma seule femme. Je vais me lever le matin pour aller bosser. Je vais faire de mon mieux pour élever mes enfants. Je vais m'engager et prendre des responsabilités dans l'Église. Je vais cultiver le jardin de Dieu et me battre pour la justice. Je vais défendre le faible. Je vais faire ce à quoi le Seigneur m'appelle. » Pour cela, il y a une grâce énorme. Énorme. Christ n'a pas abandonné son épouse. Il n'a pas abandonné ses enfants. Il n'a délaissé aucune de ses responsabilités. Dans la faiblesse, il s'est montré fort. Amen. Cathy nous a lu ce beau texte d'Ésaïe 53. Dans la faiblesse, il s'est montré fort et Dieu l'a mis avec les forts. Quand ce sera difficile, continuons, n'abandonnons pas. Nous aurons simplement besoin de Christ. C'est ça le message de ce matin. Nous aurons simplement besoin de Christ. On finit par lire le psaume 128 et puis après on prie. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Ah, ça c'est bien, je travaille et j'en ai la jouissance. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Waouh, quelle promesse du Seigneur. si nous le suivons. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier. Seigneur, merci. Merci d'avoir créé l'homme et la femme, Seigneur. Merci parce que les deux ne se ressemblent pas, mais ils se complètent. Merci parce que tu as donné des dons à l'homme et à la femme pour qu'ils puissent te servir ensemble, main dans la main. Seigneur, je te prie particulièrement ce matin pour les hommes dans notre assemblée, Seigneur. Je te prie pour des hommes forts, Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur nos cœurs, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur nos émotions. Souffle sur notre volonté. Et fais de nous des hommes forts selon ta parole. Seigneur, je te prie de nous garder d'être de ceux qui abusent, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Corrige-nous à chaque fois que nous en aurons besoin. Seigneur, on veut se battre pour la justice, pour l'équité, pour le faible, et pas contre tout cela. Oui, Seigneur, c'est difficile. Les ronces et les épines sont là. Mais Seigneur, notre espérance, elle est en toi. Elle est en toi. Et je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je n'ai pas besoin d'éviter. Je n'ai pas besoin d'abandonner. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je te prie pour les enfants, la jeunesse. Fais d'eux des hommes qui te servent. Seigneur, fais d'eux des hommes forts, Seigneur. Pas faibles. Pas des petits caractères, mais des caractères forts, Seigneur. Qui savent se battre. Qui comprennent quel est l'enjeu de l'Évangile, quel est l'enjeu de l'Église sur terre. Merci, comme il nous a été rappelé ce matin, tu es tous les jours avec nous. Amen.